Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 7 février 2026. On se retrouve pour un petit débrief de cette semaine qui a été hautement mouvementée pour le coup, avec en premier lieu un VIX qui recule. Il était passé autour de 23 cette semaine. On se demandait si ça allait partir un petit peu en vrille du côté du marché américain. Et pour l'instant, il n'en est rien, avec un dollar américain qui est aujourd'hui à 97.7, malgré tout en fort rebond depuis deux semaines, depuis les 95.6. Donc le dollar qui n'a pas dit son dernier mot. La liquidité disponible aux États-Unis, le M2 Money Stock vient de faire un nouveau point haut à 22,69 trillions, tandis que le cumulatif mondial est en train de se chercher un petit peu autour de la zone des 56 trillions. Il est à noter que les taux longs aux États-Unis sont toujours très hauts, mais ça fait à peu près deux mois qu'on est peu ou prou autour de 5 points pour le 30 ans et autour de 4,8 pour le 20 ans. On a toujours un CAC 40 également qui a clôturé dans le vert la semaine à 8 273 points, à quelques encablures de son actuel ATH, donc une semaine qui finalement s'est pas trop mal terminée. Ça a été le cas pour notamment l'ETF préféré des Français, le fameux Easy S&P 500 qui a clôturé à 0,86 dans le vert, le WPEA pour le World clôture quasi à plus 1 point après une semaine là aussi assez mouvementée. C'est également le cas pour le CW8 d'Amundi. On a du côté donc du Staple Consumers la bougie qui continue de pousser très très fort, puisque le XLP nous a réalisé quand même une semaine, on va le mesurer, qui n'était pas des piques et des verres, à plus 5,55%. Donc on est ici pour les consumers discretionary et tout ce qui va bien au niveau des États-Unis. Vous avez le Stoxx, l'Eurostoxx pour l'Europe qui a quasi bondi de 2% pour la clôture de cette fin de semaine. C'était pareil pour le S&P 500 qui pour l'instant tient plutôt pas mal autour de la moyenne mobile 20. Donc c'est à noter. Ceci étant dit, les oscillateurs sont toujours très hauts, tandis que du côté de l'énergie, le breakout est acté pour le XLE State Street aux États-Unis. On est passé de 50 à 53,25 cette semaine. Le Nasdaq, pour sa part, clôture à 2,15 en positif la semaine, mais la bougie a clôturé en négatif. Donc, toujours un raccrochage aux branches ici autour de la moyenne mobile 20. Mais on se demande à quel moment tout ça va craquer, tout simplement, et à quel moment il suffira de quelques résultats négatifs, notamment du côté des sociétés liées de près ou de loin à l'IA pour déclencher la descente ADA. Le Russell, donc l'indice des small caps, comme on l'avait vu hier, qui était plutôt sur la pente glissante, qui pareil se raccroche immédiatement, 3,60. Ça a permis cette respiration multimarché aussi de repropulser, on va le voir dans un instant, les crypto-monnaies bien entendu, qui avaient pris vraiment très très cher sur cette fin de semaine. On a le gold qui repart en direction des 5 000 $ l'once à plus 4%, le palladium qui est à plus 4,26, le platinum autour de 6%, et enfin le silver qui prend 10% en séance à 78 $ l'once. Notre bon vieux crypto total est désormais à 2300 milliards après avoir méché sa moyenne mobile 200 semaines à 2050 milliards. Ça tombe bien, c'est là où tombait le 0,618 de Fibo à 2080 milliards. Donc toute cette zone est une zone de support majeur bien entendu pour le marché crypto. La question est-ce qu'on va réussir à tanker cette zone dans les prochaines semaines et pourquoi pas du côté de Bitcoin à repartir en direction peut-être dans un premier temps des 75 000 et par la force des choses autour de 80 000. En tout cas, il y a de fortes chances que le point bas soit revisité puisque c'est très rare qu'on fasse un V-bottom sur le marché crypto. En tout cas, il nous y a peu habitués par le passé. La dominance des stablecoins après avoir touché cette semaine 0,12 pour un ATH du cycle précédent à 0,17 et de retour à 0,11. Donc un tout petit peu de stablecoin dépensé, mais pour l'instant, clairement pas de renversement de tendance et ça prendra, soyez-en certains, plusieurs mois, voire plusieurs trimestres. Le crypto total 2 des altcoins est en train de casser un peu une structure ici qu'on avait dans un canal parallèle ascendant et est venu au contact de la moyenne mobile 200, légèrement en dessous même 860 milliards. On a le support long terme qui se trouverait plutôt autour de 720 milliards. Le RSI n'est pas encore au niveau qu'on avait vu en 2022-27. On était autour de 30-31, mais on est déjà sur des drawdowns, en tout cas au niveau des oscillateurs et même en termes de prix ou de pourcentage qui sont, on ne peut plus conséquent. Quand on parle de Bitcoin transposé à ce qu'on vient de voir sur le crypto total principal, donc on est venu quasi mécher la moyenne mobile 200 qui se trouve à 58 000. On s'est arrêté autour de 59,60. Donc pour l'instant, on peut quasi considérer qu'on est venu la chercher, la moyenne mobile 200. Le RSI pour sa part de Bitcoin est à 28, tandis que au moment de 2022, on était autour de 26. Pareil au niveau du MACD, on est venu sur la zone de juillet 2022. Donc on peut considérer en effet que pour l'instant, quand bien même on reviendrait travailler un coup autour de 60 000, on risque de construire un range bas entre 60 et 70, ou au mieux entre 60 et 80, pour essayer comme ça de digérer le mouvement impulsif qui vient de se réaliser. Et par la suite, autour de cet été-automne, on verra si on arrive tout simplement à avoir un bottom entre 60 et 70, ou bien si on vient titiller dans un premier temps les 50 000 dollars, et si on avait d'autres cadavres entre guillemets qui sortaient des placards et qui nous conduiraient quelque part jusqu'aux 40 000 dollars. Il faut toujours prendre le verre à moitié plein dans ces situations. Pour ceux qui font du DCA sur Bitcoin, vous avez votre année 2026 devant vous. Alors, on ne sait jamais quand est-ce que sera le point bas, bien entendu, on ne sait jamais jusqu'où ça descendra. C'est pour ça que déjà actuellement, entre 60 et 70, il y a beaucoup de personnes qui se ruent, qui se pressent de payer le marché crypto. Mais d'un autre côté, l'expérience nous a apprise ces dernières années que souvent on paie trop tôt quand comme ça on a des grosses descentes et que par la suite on est obligé de moyenner à la baisse. Donc faites bien attention à ça. On a tendance systématiquement à penser que les prix sont attractifs dès lors qu'ils ont baissé de 50% sur Bitcoin, mais on a vu par le passé que ça pouvait se gâter beaucoup plus, hein, donc faites gaffe à vous. On a 59% pour la Bitcoin dominance ce matin, donc pas plus pas moins au contact de la moyenne mobile 100 semaines, tandis que Ether est à 2020 $, il a méché à 1750. Donc dans un premier temps, on voudrait le voir retravailler durablement au-dessus de 2150-2200. On a une moyenne mobile 200 aujourd'hui à 2460. Donc vraiment, on a tout au-dessus de la tête désormais. Ether, parfois, nous fait des remontadas express comme il a fait de avril 2025 à août de la même année. Mais voilà, en l'état, on est plutôt dans le dur de ce bear et le dur qui pourrait perdurer encore un petit peu. Et c'est là où les objectifs, normalement, on n'est pas censé revoir un Ether plus bas que 1004, là, ça devient vachement intéressant. La problématique à laquelle on est confronté, c'est si Bitcoin, en effet, finit sa course autour de 50 000 à plus ou moins 10 000 dollars, est-ce qu'on ne reverra pas Ether plutôt dans la bonne entre 900 et 1400 dollars. Voilà, comme d'habitude, j'essaie de vous donner un petit peu les 2-3 scénarios annexes qui peuvent se dérouler pour que vous ne soyez pas surpris de votre côté si jamais c'était ça qui se réalisait. Au niveau des minières, on a un rebond stratosphérique de MicroStrategy plus 26% et c'est sur résultat. Ils ont complètement explosé les attentes. Donc clairement, je suis rentré sur MicroStrategy ces derniers jours. J'ai pas attendu le dernier moment, etc. Contrairement à Coinbase que j'ai essayé de payer hier juste à l'ouverture du marché autour de 150-155, mon ordre n'est pas passé. Derrière, il est remonté de 13%. Donc pour l'instant, voilà, on va composer avec ça. Ceci étant dit, comme je vous le disais dans la dernière émission, je commence bien entendu à vouloir m'exposer à un Coinbase qui a reculé de 67%. C'est toujours pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Et les zones suivantes de DCA se trouveraient autour de 120 $. Et par la suite, si vraiment ça se gâtait, autour de 80 $ pour Coinbase. Donc Microsoft stratégie pour revenir à nos moutons qui recolle autour du support des 140 $. On va voir ce que ça va donner par la suite. C'est beaucoup de volatilité. C'est une énorme mèche comme ça avec un corps un peu qui peut s'apparenter à un pendu. Donc je sais pas trop quoi en penser en l'état et c'est ce qui du côté de Bitcoin aussi me met un petit peu le doute si on finit comme ça la semaine sur une énorme mèche. C'est est-ce que nous sommes sur la bougie ici qu'on avait faite en mai 2022 juste ici à ce moment-là et donc on travaille en support intermédiaire avant de véritablement finir de partir à la cave, ou est-ce qu'on vient de faire la bougie plutôt de juin 2022, voire de novembre 2022, avec de nouveau, pour celle en tout cas de juin 2022, une belle mèche en bas, et derrière on avait essayé de poser le bottom. Donc aujourd'hui, comme je disais dans la dernière émission, je pense qu'on a un 50-50, j'aimerais bien pouvoir vous dire avec certitude, oui c'est le bottom, pas le bottom. Toutes les personnes qui se paieront le luxe d'avoir des certitudes sur les marchés sont soit des menteurs, soit des personnes qui ont un peu trop d'ego, je pense, et l'ego a tendance à se faire punir. Malheureusement, derrière, on se fait rappeler à l'ordre par la patrouille, et la patrouille, c'est nous, notre argent et le marché. Donc aujourd'hui, il est clair que plus que jamais, va falloir faire attention à ce qu'on paie. Et d'ailleurs, pour clôturer le sujet autour de MicroStrategy, je considère ça dans mon portefeuille. C'est 0,1% de la position totale que je peux avoir en action ou en crypto, comme un énième shitcoin pour le coup, hein, au niveau de la volatilité. On est bien d'accord que je paierai gérer différemment. Un Coinbase qui aujourd'hui a totalement le vent en poupe, a les reins solides et en odeur de sainteté par rapport à l'administration actuelle qui est ultra pro-crypto et favorable aux États-Unis, par rapport à une MicroStrategy qui est vraiment de la dynamite pour le coup et qui est à considérer comme voilà, le risque ultime. Donc essayez systématiquement aussi, en plus de voir le risque récompense et tout ce dont on parle très régulièrement sur la chaîne, de jauger de la pertinence par rapport au risque que vous prenez et de vous mettre une réglette par exemple de 1 à 10 et de vous dire MicroStrategy c'est le 10 et quand on parle du marché crypto, peut-être Coinbase on est plutôt à 5 sur 10, le Bitcoin on est plutôt à 2, 3 sur 10. Voilà, il n'y a jamais de risque niveau 0 bien entendu et encore moins quand on parle du marché crypto, mais prenez bien en conscience que tout ce qui est minière et société comme ça, les TerraWolf, les Mara, enfin voilà, on l'a vu par le passé, ou même un Circle aujourd'hui qui a tout juste été introduite en bourse sur ce cycle, elle est venue mécher là autour de $50, tout rond, on est à 57. Voilà, on ne sait pas quel sera le futur prix et le point bas de Circle, mais c'est des sociétés qui peuvent finir très largement sur leur premier cycle, comme on l'a vu pour Coinbase, au-delà de moins 90%. Côté action américaine, peut-être Amazon devient intéressant à moins 6% en séance au contact de la moyenne mobile 100, on aimerait bien le revoir pourquoi pas à 180, voire autour de la moyenne mobile 200 semaines à $165, donc peut-être une entrée à venir de mon côté pour Amazon, je n'en ai pas en portefeuille aujourd'hui. Google qui est très haut toujours, qui continue de faire des investissements, qui a un capex à venir assez stratosphérique. C'est ce qui a un petit peu crispé le marché ici. Voilà. Est-ce que les investissements sur les data centers, l'énergie, l'IA, va être porteuse dans les prochaines années? Là, c'est le véritable nerf de la guerre hein, de la tech américaine. Au rang des gagnants, on a Robinhood qui reprend 14% au contact du bas du canal et du 0,5 de Fibo autour de $71-72. Pareil, de la même façon que Netflix et quelques autres, j'ai commencé à payer très doucement Robinhood parce qu'à l'époque voilà, j'avais le luxe d'être rentré relativement tôt, donc je me dilue quelque part et je me dilue relativement haut, mais c'est une société dans laquelle j'ai des convictions pour du long terme et dans l'idéal au très très long terme, si jamais on avait un crack un peu de marché du côté du marché américain cette année, quand je parle de crack c'est moins 10, moins 15, moins 20% au max, un peu comme on avait eu au moment des tarifs de Trump en avril 2025, on a une moyenne mobile 200 et un support relativement intéressant je suppose autour de $35 aujourd'hui, donc c'est pas rien hein, quand on commence à rentrer quelques actions à $80 de se dire que si vraiment on se fait punir on peut finir à 35, mais comme d'habitude ça permet d'avoir une fourchette là qui est un râteau complètement fou pour le coup, mais tout en restant exposé à se dire que si c'est pas le pire qui vient à arriver, qu'on reste relativement haut quelque part entre 60 et $80, par la suite on aura une belle relance et voilà, c'est comme ça que j'essaie de me matérialiser systématiquement les choses. On a Tesla qui est autour de $411. Donc pour l'instant, on ne sort toujours pas de cette immense box ici. Hein. Dès qu'on revient au contact des $500, ça ne passe pas. Un PER qui est malheureusement stratosphérique pour Tesla. Un pivot où on sent que petit à petit, les voitures plus tard, ça sera peut-être pas le nerf de la guerre pour eux, mais plutôt la robotique et l'IA. Donc on se pose beaucoup, beaucoup de questions du côté de Tesla. Du côté des Françaises, Vinci qui nous a imprimé une bougie rocambolesque, on est passé de 120 à 134, 12% sur la semaine, donc Vinci pour lequel au travers du temps ça se passe très très bien, c'est un Air Liquide like, voilà, c'est un bateau bien lancé, bien posé, bien exécuté, je ne pourrais qu'avoir des bons superlatifs là pour le coup, c'est un très bon dossier, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes sur les réseaux sociaux aussi qui suivent un petit peu la débâcle du côté de FDJ, pour l'instant le fleuron de, on va dire, des paris à la fois sportif et je sais pas comment le qualifier exactement, mais des paris tout court, du loto, enfin voilà, on va pas refaire l'historique de ce que représente la FDJ en France. On a également le fait que l'État est actionnaire et ça, ça crispe beaucoup de monde. Mais toujours est-il, au vu de la purge qu'il y a eu, au vu du fait que, en effet, les résultats sont bons et qu'on continue d'avoir une belle croissance et que les gens continueront de jouer au loto, au jeu à gratter et tout ce qui s'ensuit, voilà, on est quand même revenu autour de 20 balles pour FDJ. Donc la question peut légitimement se poser quand on est en train de casser la volatilité comme ça, de si on n'a pas un futur mouvement qui est en train de se préparer. Du côté des altcoins, j'ai pas franchement envie de, pour l'instant, aller voir un peu ce qui se passe parce que, premièrement, il faut laisser la poussière se poser quand on a des mouvements comme ça ça qu'on peut appeler des mouvements traumatiques. C'est des mouvements où on traverse absolument tous les planchers en ligne droite et derrière, on ne sait jamais justement jusqu'où peuvent mener certaines implications, liquidation, exchange et tout ce qui va bien. Donc aujourd'hui, on a des trucs comme le BNB qui sont relativement résilients au long terme, mais qui peuvent aussi avoir ce questionnement de la relation vis-à-vis de l'échangeur qui l'édite, tout simplement. On est autour de 637 $, on a le support juste au-dessus des 685, moyenne mobile 200 à 500 $, et la zone de sortie de cette petite box du bear market précédent autour de 352, sachant qu'en juin 2022, le BNB s'est changé à 184 $ et il est venu chercher sur ce cycle 1368 $. Côté Asie, mais surtout Japon, ça continue de se passer plutôt pas mal. On a un rebond de 3% d'Alibaba, mais c'est surtout l'indice phare, le Nikkei pour le Japon, qui rebondit de 5% pour la clôture vendredi et qui donc sur la semaine a balayé désormais de 52 680 points à 56 470, soit une progression hebdomadaire de plus 7% pour le Nikkei japonais. Donc aujourd'hui, vous voyez que plus que jamais, si vous avez une exposition au monde, en effet, que ça soit au travers d'un S&P plus un ETF Asie, que ça soit au travers d'un World plus un ETF Asie, ou voilà, vous essayez de mitiger un petit peu à la fois la zone géographique, un petit peu d'Eurostox ou tout ce qui va bien, et comme ça vous avez une exposition à l'entièreté du monde. Derrière, ce qu'il faut faire attention, c'est ce qu'on appelle un overlap, de pas avoir plusieurs ETF qui traitent exactement la même zone géographique ou le même secteur, souvent beaucoup orienté vers les États-Unis et la technologie, et dans un même laps de temps de regarder peut-être actuellement un petit peu justement autour de ce qui se passe, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le côté énergétique, sur le côté consumers. On a peut-être une mini rotation qui est en train de se faire. Et voilà, finalement, ce qu'on va attendre pour 2026, c'est si on franchit ces 7000 points pour le S&P pour aller chercher un petit peu plus haut et une accélération à nouveau, chose qui peut tout à fait arriver. Hein. On a vu que dans le monde dans lequel on vit, une info peut faire et défaire les marchés et encore plus le président Orange, pour le coup, du côté des States. Et d'un autre côté, ben, on a eu un rebond qui a été assez glorieux, comme diraient nos bons vieux guerriers, et autour de 4800 points en avril 2025 à 7000 points aujourd'hui. Donc des retours à la moyenne de ne serait-ce que moins de 10% au cours de 2026. Vous êtes quasiment assuré de le choper au cours de cette année, votre moins de 10 sur le S&P. La question, c'est est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'on va chercher l'excès 7400, 7005, peut-être plus sur le S&P avant de nouveau venir recoller aux moyennes long terme. Et la moyenne long terme aujourd'hui, c'est la moyenne mobile 200 qui se trouve autour de 5100 points. Donc si on tombait un peu comme une pierre aujourd'hui, c'est moins 26% pour le S&P. Donc on voit que malgré tout, hein, c'est des objectifs où c'est quand même assez important en termes de drawdown. Et si jamais on vise plutôt voilà, un petit intermédiaire ici, quelque part entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100, on serait plutôt à moins 11, moins 12%. Donc je pense que c'est ce qui a plutôt des chances de se réaliser si jamais c'était la version soft, de revoir un S&P autour de 6150 points, ce qui permettrait probablement aussi au Bitcoin finalement d'atteindre notre target final baissière autour de 50 000 $. Et 50 000 quand on vise, comme je disais, des comptes au rang 100 000, 150 000, 200 000 à quelques années, ça fait des objectifs qui sont relativement réalistes, qui sont réalisables. En termes de pourcentage, c'est totalement en notre faveur, comme je disais en fin de dernière émission, et c'est aujourd'hui ce que vous devez jauger quand vous mettez 100 $, 1000 $, 10 000 $ sur un marché. Quel risque vous prenez à un instant T, quel horizon de temps vous vous permettez justement pour voir si votre théorie d'investissement, votre thèse a fonctionné, et ensuite derrière vous agissez en conséquence, puisque de temps en temps, peut-être pas pour un S&P, peut-être pas pour un Bitcoin, peut-être pas pour une action Nvidia ou Microsoft ou Google ou je ne sais pas, mais de temps en temps vous prendrez un petit peu plus de risques pour aller chercher quelque chose peut-être d'un peu plus exotique, comme on veut le faire de temps en temps du côté des altcoins ou du côté des minières ou du côté voilà, de toutes ces actions qui ont beaucoup de volatilité, et vous vous prendrez littéralement les pieds dans le tapis. Vous verrez que malgré les convictions que vous avez au départ, eh bien, ça n'a pas fonctionné, et c'est là où c'est le logiciel d'expérience qui se met en route. À partir du moment où vous commencez à ne plus sentir quelque chose, il faut souvent s'en détacher le plus rapidement possible, puisque c'est là où on a tendance, en tout cas notre cerveau, pour essayer de nous préserver du mal entre guillemets, à nous offrir tout monts et merveilles en termes de stratégie pour ne pas avoir à acter cette souffrance qu'est la perte d'argent. Et derrière, on fait tout et n'importe quoi. On garde des positions jusqu'à zéro. Le fameux pas vendu, pas perdu. Enfin, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, tellement de choses à dire et de biais qui existent par rapport au cerveau humain qu'aujourd'hui, ça pourrait faire l'objet d'études à part entière liées au marché, justement. Et c'est ce que, quelque part, retranscrit très bien. Et je m'arrêterai là pour pas faire un blabla infini, pour pas dire grand chose au final, bien que c'est un sujet, la psychologie liée aux foules et à l'investissement, l'aversion, etc., des plus intéressants. Et je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui comprend quelque part un peu mieux la psychologie et les biais humains est infiniment plus calé sur les marchés que quelqu'un qui fait juste du chiffre, et encore que les deux sont assez complémentaires. Mais toujours est-il, voilà, ça prend des années et des années. Il y a pas mal de personnes actuellement qui nous font des retours en commentaire que ça fait 4 ans, ça fait 6 ans, ça fait 8 ans, et enfin, il commence à devenir profitable, quand bien même on est sur des cycles qui ont été très perturbés et chahutés, comme ce cycle du marché crypto. Donc aujourd'hui, je suis assez content de lire que petit à petit, les gens avec l'expérience comprennent comment fonctionnent les marchés, et surtout, aujourd'hui, on pourra clôturer là-dessus pour de bon. Sur les marchés, finalement, le plus est l'ennemi du bien, et vouloir toujours plus, vouloir toujours mieux, et vouloir toujours être plus dans l'action également, c'est exactement la réflexion que je me suis fait récemment. Je me suis dit, ouais, j'aime bien faire du stock picking, j'aime bien acheter un petit peu de micro-stratégie, un petit peu de Coinbase, mais il y a de grandes chances qu'à un horizon de temps de quelques années, eh bien, je me fasse surperformer par mon simple MSCI World que j'aurais laissé de côté pendant une dizaine d'années, alors que l'autre, j'aurais essayé de rentrer, de sortir. Voilà, est-ce que cette news va avoir un impact? Pourquoi? Comment? Coinbase, fondamentalement, je ne vais pas le garder 10 ans, je vais peut-être le garder 1 ou 2 ans pour voir un petit peu, pour surfer sur la prochaine tendance haussière qui, j'espère, arrivera dans les 2 à 4 prochaines années pour le marché crypto, tel que, finalement, le cycle nous l'a toujours offert. Et voilà, c'est comme ça que j'essaie de réfléchir aujourd'hui, et que vous devriez aussi réfléchir de votre côté, quel est le ratio risque-emmerdement prise de tête au travers du temps, plutôt que de juste laisser tourner des positions comme ça sur des ETF qui vous prendront une bande passante mentale infiniment moins importante. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent début de week-end, on se retrouve lundi comme prévu. Je tenais à faire ce débrief du samedi aujourd'hui, bien que c'était pas fondamentalement des plus nécessaires, mais c'est intéressant de voir un petit peu la physionomie que nous offrent aujourd'hui les marchés, et de voir que le marché crypto, oui, s'est pris un sacré traumatisme là récemment, 60 000. Dans le meilleur des cas, on fait 60-70, mais je peine à croire qu'un bear market crypto nous offre quelque chose aussi simplé que 50% de recul, 52. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on aura un petit peu plus de souffrance et peut-être décalé autour de fin d'été, automne, peut-être, pour faire exactement comme ce qu'on a fait sur les cycles précédents. Toujours est-il, aujourd'hui, pour ceux qui sont convaincus que Bitcoin n'ira pas à zéro et que dans les prochaines années, il sera beaucoup plus haut, voilà, il y a des opportunités qui sont déjà là, et c'est des opportunités qu'il faut savoir à la fois saisir quand elles sont là, mais surtout avoir des plans pour si jamais ça continue derrière à devenir un petit peu plus compliqué. Très bon début de week-end, et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.